des auteurs, des formats, des genres, une histoire du cinéma. Vous écoutez les podcasts du cinéma du TNV.
Cycle film de la Hammer au cinéma du TNB. Une série en 5 épisodes présentée par Agathe Presselin et Simon Pageau. Épisode 2. Une fille pour le diable. Tournée en 1976, Une fille pour le diable est le dernier film d'épouvante des studios de la Hammer. Et c'est aussi un film plus dur que nombre de titres précédents. Un film où les morts sont plus vrais, le mal plus féroce et réel. Un film où le diable se cache, mais où tous ses invocateurs semblent y croire plus fort que jamais. C'est que surtout, Une fille pour le diable, tournée dans ses années tardives pour le studio anglais, n'est déjà plus un film pour un studio. Les séquences sont plus orchestrées et demandent plus d'espace que les châteaux hantés et les manoirs des vieux décors. Les zooms sont plus inquisiteurs et ils plongent plus loin dans les plans. Enfin, le ton est beaucoup plus sérieux. L'histoire parle d'enfants enlevés, de personnes abusées, de sectes obscures et de livres maléfiques, mais non à partir d'anciens contes et de récits vieux comme le monde. Nous sommes dans l'Angleterre moderne et c'est ici que rôde le mal. Il se cache au fond des églises, il passe dans les miroirs, il arrive enfin dans les rêves. Depuis le fond des âges, sans doute, il attendait là, silencieux, et il sort le bout de son nez lorsque la magie est partie, mais que le monde fonctionne encore, comme tournant tout autour du vide. Ainsi, Une fille pour le diable fait peur, comme font peur certains films des années 70. À la place des anciens repères, lorsque tous les contes sont enfuis, il y a comme une sorte de trou. En fait, en sortant de ses studios, la Hammer perd ses belles couleurs, son montage dynamique et sa grande vitesse dramatique permises par l'artifice et l'agencement des décors d'intérieur. Mais elle gagne en revanche ce que derrière ses Dracula, ses Frankenstein et toutes ses autres adaptations, elle n'avait jamais recherché, et qu'on appelle un air du temps. Les vampires sont des vieux démons et leur violence est archaïque. Les revenants toujours viennent d'histoires antérieures, mais le trou dans la vie moderne, cela aussi pourrait faire peur. Dans Une fille pour le diable, le sang est plus mortifère que jamais, car il met en rapport les apparitions fantastiques et la mécanique d'un monde de fantômes devenu plus vrai que la vraie vie. Si les hommes sont dépossédés, et si parfois, sans qu'ils le sachent, ils travaillent maintenant pour le diable, c'est que ce dernier, bien mieux que les autres, a compris le sens de la vie. À l'autre bout de la grande ville, il sait que tous les hommes avancent, il sait qu'ils vont tout droit et qu'ils n'ont pas le choix. Le monde moderne est un manège qui prend tout le monde avec lui, et le diable n'a rien d'autre à faire que d'entrer aussi dans la ronde. En 1976, l'histoire voulait pourtant que, lorsque le film se termine, personne ne soit vraiment content, notamment les acteurs. Christopher Lee, en grand maître d'une secte, trouve qu'il a joué un mauvais rôle. Richard Widmark, en spécialiste des sciences occultes, n'est pas non plus très convaincu. Et puis Denis Whistler, écrivain britannique qui avait donné tous les droits pour l'adaptation de son roman, partira même très énervé à la fin du tournage. Et on peut sans doute les comprendre, car plus le film avance, et plus il se fie aux démons, allant vers une forme de surcharge qui allie scène étrange, argument tendancieux, orgie de mauvais goût. C'est qu'il y a peut-être un moment où le film est perdu. Alors viennent les tout derniers plans, lors du dernier rituel, où les couleurs du manège se déchaînent. Tout le monde est parti. Certains sont morts, les autres se sont enfuis. Il ne reste que Christopher Lee, Richard Widmark, et un film qui avance tout seul, car il donne ses images au diable.
Retrouvez tous les podcasts sur tnb.fr.